Et bienvenue dans cette nouvelle émission de notre série consacrée à la thématique de l'histoire des Vosges et plus particulièrement nous parlons de l'histoire d'Épinal. Nous sommes pour cela en compagnie de Jacques Grasser, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre invité tout au long de cette série et je rappelle vous êtes agrégé d'histoire. Avec vous, nous avons présenté pas mal de choses sur l'histoire d'Épinal et nous abordons depuis quelques émissions la thématique des fortifications qui sont nées autour de la guerre de 1870 et surtout après. Mais il y a un artisan, j'ai envie de dire, qui est à l'origine de ces constructions. Et c'est vers lui qu'on va tourner nos projecteurs aujourd'hui.
Voilà, oui, absolument. Alors, en n'oubliant pas malgré tout que dans l'histoire des fortifications à Épinal, n'oublions pas le château d'Épinal, qui était une fortification en son temps, mais qui effectivement, en 1870, même si le château a été plus ou moins bombardé en 1870 lors de l'offensive prussienne à Épinal, au mois d'octobre 1870, qui pensait qu'il était encore une forteresse imprenable. Donc ce ne sont que des vestiges. Et en fait, on va s'intéresser effectivement à ce qui va être construit à Épinal à partir de 1874.
Voilà. Qui est à l'origine de ces constructions ?
Alors, il faut se replacer dans l'histoire, évidemment, de la guerre de 1870, guerre, comme on sait, malheureuse pour la France, puisqu'elle se solde par une défaite militaire et politique, puisque le Second Empire s'achève à ce moment-là, le 4 septembre 1870, avec la naissance de la Troisième République. Et donc, défaite militaire cinglante, qui s'achève au tout début, fin hiver, début du printemps 1871, avec les armées de la République, remarquables par ailleurs. Pensons dans l'est de la France à l'armée de Bourbaki dans le Jura et dans le Doubs, qui se réfugient en Suisse, mais avec des volontaires qui se sont battus, mais sans avoir le matériel nécessaire, ni l'encadrement qu'il aurait fallu. Donc, cette guerre s'achève par le traité de Francfort au mois de mai 1871, s'achève aussi par une crise politique majeure, puisqu'il ne faut pas oublier quand même que pendant 2 mois, c'est la Commune de Paris, aussi, à partir de mars au mois de mai 1871. Et donc, la France est vaincue militairement avec l'annexion des départements alsaciens et de l'actuel département de la Moselle. Alors, je ne donne pas dans le détail là-dessus, mais il suffit de regarder la géographie des 2 départements alsaciens, enfin du seul département, puisque maintenant, on n'a plus qu'un seul département, de l'Alsace et le département de la Moselle, pour avoir la nouvelle ligne frontière qui sépare l'Allemagne, la nouvelle Allemagne, puisque l'Empire allemand a été proclamé à la Galerie des Glaces de Versailles, donc à la suite de cette guerre, enfin pendant cette guerre, au mois de janvier 1871. Et donc, la frontière, c'est la limite actuelle, la limite orientale pour les Vosges, la Meurthe-et-Moselle et le territoire de Belfort face à l'Alsace-Moselle annexée. Donc, évidemment, cette frontière est complètement ouverte, puisque si jusque-là on était protégé, en particulier par la vallée du Rhin, on ne l'est plus aujourd'hui. Et donc, on est à la merci, éventuellement, d'une nouvelle invasion allemande à partir de l'Alsace ou des départements de la Moselle. D'ailleurs, Metz va devenir une forteresse fortifiée, une ville fortifiée de première catégorie sous l'action des Allemands, mais pas seulement. Pensons, par exemple, à la fortification de Mutzig, par exemple, que l'on visite aujourd'hui, qui était ce qu'on appelait une feste, un fort allemand construit dans cette période-là. Donc la frontière est ouverte et il va falloir évidemment prendre des mesures là-dessus. Alors, il ne faut pas oublier non plus que lors de cette guerre de 1870, la France était seule. C'est-à-dire qu'on n'a eu aucun secours ni de l'Angleterre, ni de la Belgique, ni de l'Italie, ni de l'Espagne. Et donc on a des frontières ouvertes de tous les côtés.
C'était un conflit qu'on considérait franco-allemand.
Voilà. Et donc on va essayer de voir comment on pourrait à la fois éventuellement empêcher une nouvelle invasion de la part de l'Allemagne, essentiellement, mais pas seulement, et éventuellement, si on ne peut pas l'arrêter, au moins la retarder. Et donc, on va confier cette mission à un nouvel inspecteur des fortifications qui travaille au ministère de la Guerre, qui s'appelle Raymond-Adolphe Serré de Rivière, qui est un général du génie, un général de brigade du génie. Donc, j'en dis simplement un mot pour replacer le personnage, puisque le système qui va être construit à partir de ces années-là, à partir de, grosso modo, 1874, porte son nom, même si on le verra, c'est un peu impropre pour le système fortifié dont on hérite en 1914. Mais enfin, on y reviendra. Donc Raymond Adolphe Céré de Rivière est né en 1815 à Albi. D'ailleurs, si nos auditeurs visitent Albi, qui est une très belle ville, avec un centre ancien tout à fait remarquable et une cathédrale non moins remarquable, ils peuvent aller jusqu'à l'hôtel particulier de la famille Céré de Rivière, qui existe toujours dans le vieil Albi, une propriété privée. C'est une très grosse bâtisse où j'ai eu d'ailleurs l'insigne honneur, il y a quelques années, de faire une conférence sur le système Céré de Rivière, d'ailleurs donc dans les lieux où le jeune officier avait conçu tout ce système. Alors Céré de Rivière est quelqu'un, c'est un polytechnicien, il est rentré à Polytechnique à l'âge de 20 ans, il en est sorti sous lieutenant, et il a eu toute une série de garnisons successives, dont Metz, d'ailleurs, dans les années 1860, où il va commencer à avoir des conceptions très originales et qu'il va commencer à mettre en jeu à Metz. Il est l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages autour de Metz, donc Metz française, bien sûr, avant la guerre de 70. Et puis, la guerre de 70, il devient d'ailleurs officier général chargé du génie, justement, de l'armée de la République, de l'armée Bourbaki, l'armée de l'Est, dont je parlais tout à l'heure. Et à la fin de cette guerre, il va être nommé rapporteur du procès du maréchal Bazaine. Alors, maréchal Bazaine, il faut se rappeler qu'il commandait les troupes françaises à Metz. Il s'est laissé enfermer à Metz avec son armée. Et donc, il a été fait prisonnier, alors qu'il n'a quasiment pas combattu du tout. Donc, avec plusieurs centaines de milliers de soldats français qui auraient pu servir éventuellement autrement. Donc, Bazaine a été arrêté. Et on a fait son procès en 1873, et l'un des rapporteurs pour le génie et pour les fortifications, c'était Céré de Rivière. Et Céré de Rivière a fait un réquisitoire impitoyable contre Bazaine, l'accusant effectivement de n'avoir rien fait, de s'être laissé enfermer dans une place, de s'être laissé assiéger comme on aurait assiégé une ville au Moyen-Âge. Et donc Bazaine a été condamné. Et puis, c'est rocambolesque qu'il a réussi à s'évader. Enfin, bref, on l'a pas trop surveillé et il est parti en Espagne. Alors, Céré de Rivière a eu sa notoriété à cause de ça. Donc, quelqu'un connu par ses théories. C'est un peu comme Charles de Gaulle dans les années 30, hein, qui écrit des bouquins sur les blindés. Hein. C'est un peu la même chose. Lui, il écrivait sur les fortifications et avec des conceptions très nouvelles. Et sa conception, c'était surtout de ne pas se laisser enfermer dans une place, de ne pas avoir une place fermée avec des soldats prisonniers à l'intérieur, mais puisque aucune forteresse n'est imprenable, comme on dit, et la faim aidant et la soif aidant, ils finissent par se rendre. Et donc d'avoir au contraire un système avec des forts détachés qui surveillent les voies de communication, en sachant que après 1870, les voies de communication prennent une importance décisive, puisque c'est à la fois évidemment les rivières et canaux navigables, mais ce sont les routes de plus en plus modernes, et puis bien sûr le chemin de fer qui se développe à toute vitesse et qui permet rapidement de pouvoir transférer du matériel lourd, en particulier le matériel d'artillerie et le matériel du génie. Donc, à cause de ces voies de communication de plus en plus modernes, il faut pouvoir réagir, et donc la conception de Céré de Rivière, ça va être, d'une part, de pouvoir effectivement interdire des voies de communication par la puissance de feu des nouveaux ouvrages, et en même temps de canaliser l'invasion ennemie par ce qu'on appellera des trouées entre deux pôles de fortification. Donc, je vais y revenir à propos d'Épinal. Alors, Céré de Rivière a commis, si je puis dire, deux mémoires importants en 1873 et en 1874, qu'il a donné au ministère de la Guerre, donc avec ses conceptions, avec les études qu'il avait faites sur le terrain. Alors, il faut oublier qu'à l'époque, on y va à cheval, hein, et en voiture hippomobile. Donc, il faut imaginer que le système Céré de Rivière, c'est pas seulement l'Est de la France, mais c'est le Nord de la France, c'est les Alpes, c'est les Pyrénées, et c'est une partie des côtes atlantiques et manches, y compris aussi quelques retouches sur des fortifications dans les territoires d'outre-mer. Donc c'est le Vauban, on l'a appelé le Vauban du 19e siècle.
J'allais vous poser la question, voilà. Puisque Vauban a quand même été celui qui a complètement renouvelé la construction des fortifications à
tout
son
à fait.
Époque.
Tout à fait.
Serré de Rivière va un petit peu faire la même chose en France.
Alors, il va construire de nouveaux ouvrages, puisque à la fin, sous son égide, on aura à peu près 180 forts, plus tous les ouvrages annexes, que je ne détaille pas. En 1914, c'est plus de 200 ouvrages, 200 forts qui existent sur la périphérie de la France. Mmh. Alors, il va concevoir à la fois des ouvrages tout à fait nouveaux, par exemple à Épinal. À Épinal, il n'y avait absolument aucun fort autour d'Épinal, contrairement à Belfort, où il y avait une citadelle, à Verdun, à Toul. Mais à Épinal, il n'y avait que les ruines du château, c'est tout. Voilà. Et donc, ça va être quelque chose de complètement nouveau, mais aussi, il va réformer, moderniser des ouvrages de Vauban, qui évidemment n'était plus du tout adapté à la puissance de feu de l'artillerie à la fin du 19e siècle. Et donc, il va intervenir sur des ouvrages dans les Alpes, dans les Pyrénées, sur les côtes, qui étaient des ouvrages souvent dus à Vauban, mais qu'il a modernisé complètement.
Bien voilà pour cette présentation autour de Serré de Rivière, mais j'imagine que les Allemands n'ont pas dû rester totalement aveugles à ce qui se passait de l'autre côté de la frontière et devaient aussi s'attendre à une tentative de revanche éventuellement, et que eux aussi de leur côté ont dû faire quelque chose. Mais je vous propose, Jacques Grasser, qu'on puisse en parler dans une prochaine émission. En attendant, ici se termine celle-ci, et je vous rappelle qu'elle est disponible en podcast sur notre site internet, et moi je vous dis à très bientôt pour poursuivre sur cette série autour de l'histoire des Vosges et l'histoire d'Épinal.